Hello la communauté, bienvenue sur Choose Your Mentor, votre podcast préféré. Deux fois par mois, nous vous proposons une conversation avec une personne qui nous inspire et qui nous motive afin d'aider des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur choix professionnel ou universitaire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Auriane Canfra. Auriane est Group Marketing Manager chez EcoBank West Africa. J'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer Auriane il y a quelques années et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour son éthique du travail et son évolution professionnelle. Dans cet épisode, Auriane revient sur son parcours en IUT, puis en école de commerce, sur ses différents stages, sur son choix de rejoindre le graduate programme d'Unilever et les conséquences extraordinaires de ce choix dans sa vie. Auriane nous parle aussi des moments plus délicats, d'introspection, de son changement de carrière et aussi, dernièrement, de son changement de domaine du retail fast-moving consumer good à la banque. On évoque aussi les doutes que peuvent avoir les jeunes générations sur des carrières dans le marketing qui est en pleine mutation du fait de différentes transformations digitales à l'œuvre dans le secteur. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir Auriane. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire ou un petit message sur Apple Podcast, de nous noter 5 étoiles de préférence. Ça nous aide énormément et ça compte beaucoup, beaucoup pour nous. Nous sommes très heureux de recevoir chaque fin de semaine vos messages, vos remerciements, vos encouragements. Nous vous disons merci pour cela. À très vite. Ok, top. Bah, Auriane, je suis... C'est parfait, c'est okay. Très bien. Je suis très heureux de t'avoir sur Choose Your Mentor. À plusieurs titres, mais je pense que les auditeurs les découvriront au fil de l'interview. On s'est connus il y a un petit moment, je crois que c'était en 2015, sur une plateforme de partage d'expérience sur laquelle on a tous les deux partagé notre expérience. Depuis 2015, moi j'ai eu le plaisir de suivre ton évolution, tes différents choix audacieux. J'étais assez impressionné à certains moments. Bon, on aura l'occasion d'en parler là. Je t'ai jamais dit parce qu'on ne s'était pas reparlé depuis un petit moment. Mais voilà, on va parler ensemble pendant un peu moins d'une heure ou une heure à peu près de tes choix de carrière, de tes projets, de tout ce que tu souhaiterais à évoquer avec nous. Et avant de commencer tout ça, je vais te laisser te présenter et me dire qui est Auriane.
Ça marche. Déjà, merci beaucoup, Mali, pour tes gentils mots et pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'être sur ta plateforme. Effectivement, ça a beaucoup évolué depuis la plateforme en question que tu as évolué en 2015. Et c'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que j'ai suivi aussi l'évolution de Choose Your Mentor et que je me vois aujourd'hui invitée justement sur ton émission. Alors, que je me présente en quelques mots, j'ai essayé de faire court vu qu'on va rentrer dans pas mal de questions après. Mais je m'appelle Auriane, ex à Boîtier et désormais Canfra, parce que je me suis mariée entre-temps. Je suis maman d'un petit garçon, donc ça c'est pour l'aspect personnel. Et je suis actuellement marketing manager chez EcoBank. J'ai une double casquette que je vais certainement avoir l'occasion d'expliquer aussi plus tard. Et voilà qui je suis, de façon très
très bien. Parfait. Bah, on va commencer direct sur EcoBank, sur ton expérience actuelle. Donc, tu es installé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu travailles chez EcoBank en tant que Group Marketing Manager. Déjà, est-ce que tu peux évoquer EcoBank? Parce que pour moi, EcoBank, dans l'environnement bancaire africain, et même ivoirien et même africain, a une particularité. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la particularité d'EcoBank? Qu'est-ce qui vous différencie, le groupe? Et après, ensuite, c'est quoi tes missions à toi? Qu'est-ce que ta lettre de mission au sein d'EcoBank?
D'accord, très bien. Avec beaucoup de plaisir. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que j'étais cliente EcoBank avant d'y travailler. J'étais cliente depuis à peu près 2 ans et demi, à peu près 2 ans, avant de commencer à y travailler. Et j'étais une cliente satisfaite. Bon, une fois que ça s'est dit... Je dirais qu'en fait, EcoBank, c'est une institution panafricaine de renommée internationale. Elle est née en Afrique, elle a été conçue par des Africains pour le développement de notre continent. D'ailleurs, il y a quelques années, justement, quand je bûchais un peu l'histoire de la structure et tout ça pour préparer mes entretiens, en 2018, je suis tombée sur une phrase qu'un des pères fondateurs, comme on les appelle, a dit. Et cette phrase, c'était « Nous n'avons pas de stratégie africaine ». L'Afrique est notre stratégie. En fait, depuis, si tu veux, j'ai vraiment gardé ça à l'esprit parce que je trouve que ça résume parfaitement ce que EcoBank en tant qu'institution financière panafricaine représente pour moi. Donc ça, je dirais que c'est le premier axe de véritable de différenciation. C'est vrai qu'il y a d'autres banques panafricaines, il y a d'autres institutions aussi qui se disent panafricaines, mais je trouve qu'au quotidien, dans la façon dont on choisit même nos partenariats, dans la façon dont on choisit les causes RSE qu'on veut défendre, c'est vraiment, on pense en premier au développement du continent africain. Et le deuxième axe de différenciation, je dirais que c'est notre stratégie de transformation digitale, qui s'est d'ailleurs beaucoup accéléré au cours de ces 12 derniers mois. Bon, comme je pense dans la plupart des entreprises qui avaient un agenda digital, on le sait, on a dû se réinventer, on a dû s'adapter face à la situation que nous a imposée Covid-19. Je ne dis pas d'article parce que ça me fait toujours aussi bizarre de dire la Covid-19.
Je suis d'accord avec ça.
en tout cas, voilà, je dirais que la stratégie de transformation digitale de EcoBank, c'est ce qui m'a frappé déjà de l'extérieur. Je suis vraiment devenue cliente à cause de l'application EcoBank mobile. Okay. On a vraiment des plateformes qui sont à la pointe de l'innovation. Donc, l'application EcoBank mobile que je viens d'évoquer, par exemple, au-delà de juste gérer ses comptes, savoir combien est-ce qu'on a, faire des transferts et tout, permet de faire des choses mais extraordinaires et dans tous les pays dans lesquels EcoBank opère. Tu vois, c'est une seule et même application que tu utilises, que tu sois au Mali, au Nigeria, au Ghana, où j'en passe. Il n'y a pas besoin de chercher EcoBank CI ou EcoBank SN. Tu vois, c'est vraiment une seule et même plateforme qui te permet de faire une multitude de transactions à travers l'Afrique. Et en particulier au sein d'une même zone monétaire. Tu peux, par exemple, moi, je peux générer un code qu'on appelle les e-tokens. Je génère un code. Quelqu'un qui est au Mali, au Burkina, au Sénégal peut retirer son argent de façon instantanée à 1% de frais. Tu vois, c'est un truc qui m'avait vraiment, à titre personnel, épaté. Et voilà. Et au-delà de cette application... dis-moi, pardon.
Non, juste pour comprendre, le token, c'est tu fais un virement à quelqu'un et tu lui génères un token, lui, il le reçoit. Et à partir de ce token-là, il peut retirer de l'argent, c'est ça hein?
Oui, et en fait, ce qui est génial et presque magique, c'est que la personne n'a pas besoin d'être client EcoBank. Moi, je génère le token à partir de mon application. Oui. Mais le token, je l'envoie par SMS ou par WhatsApp à la personne qui se rend dans n'importe quel distributeur automatique EcoBank. Et qui peut retirer son argent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu vois, pour 1,01% de frais.
Avec une carte ou pas besoin de carte ?
Sans carte. Okay. La personne n'a ni besoin de carte, ni besoin d'Internet, ni besoin d'être cliente EcoBank.
Excellent.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait épatée. Et donc, je ne vais pas te faire l'apologie de l'application mobile, mais c'est pour dire qu'on est vraiment à la pointe de l'innovation. Alors, comme toute entreprise qui est orientée innovation, bien sûr, on est en amélioration continue, donc il peut y avoir des bugs, mais ça, je pense que ça arrive à toutes les entreprises justement qui osent se lancer sur le digital. Et au-delà de ça, pourquoi je parlais de vraiment pointe de l'innovation, c'est parce qu'on a aussi des plateformes professionnelles, par exemple Omni, qui sont de véritables outils de gestion de trésorerie complets pour nos clients professionnels et qui viennent aussi sous le format sous un format application, en tout cas pour Omni Lite, qui est dédié aux PME et à ce genre d'entreprise. Tu vois. Donc voilà, donc pour résumer, je dirais vraiment l'Afrique en tant que stratégie et puis la transformation digitale.
Ok, top. Là, vu qu'on est lancé sur EcoBank, pardon, je m'engouffre. Déjà, je fais juste un petit disclosure. Il n'y a pas de partenariat.
Non.
Oriane est marketing, donc elle est à fond, elle explique. Il peut en avoir, vu que là, j'ai la marketing manager, on ne sait jamais. Peut-être qu'on réfléchira à voir ce qu'on peut faire et que vous aurez un code promo pour ouvrir un compte chez EcoBank avec Choisir Mentor, on verra. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On est juste en train de discuter.
C'est pour ça que j'ai précisé que j'étais cliente avant. Parce que je ne sais pas parce que c'est sponsorisé.
C'est clair.
Et ça vient de rappeler.
Vous mesurez votre taux de satisfaction ou pas de l'application actuellement?
Oui, on mesure le taux de satisfaction.
Est-ce que tu peux le diffuser ou pas vraiment?
Non, je ne suis pas vraiment la personne à communiquer.
Ça marche, pas de problème.
Ouais.
Pas de souci. Bon, de toute façon, on va arriver sur le marché bancaire et sur l'impact que la digitalisation a et les fintechs. Et là, du coup, la deuxième question sur ce premier volet-là, c'était du coup, toi, ta lettre de mission au sein d'Ecobank et tes tâches au quotidien, c'est quoi?
Merci pour la question. Alors, comme j'ai vaguement, enfin brièvement évoqué tout à l'heure, mon poste actuel est sensiblement différent de ce que dit LinkedIn. En fait, j'ai toujours pas mis à jour. Mais quand je suis rentrée chez Ecobank en janvier 2018, je suis effectivement rentrée en tant que Group Marketing Manager pour une catégorie de produits. En fait, c'était Group Product Marketing Manager. C'était ça mon titre exact. Et la catégorie de produits que je gérais s'appelait CASA, comme on l'appelle chez Ecobank. Ça veut simplement dire Current Account, Savings Account. Et ça concerne en fait tous les. En fait, si tu veux, ça concerne la mobilisation de dépôt. Donc, j'étais responsable marketing pour tous les produits de mobilisation de dépôt au niveau de Ecobank Group. Donc, je couvrais les 33 filiales, mais uniquement sur cette catégorie de produits. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on va dire qu'au
Bien
bout d'un
sûr.
certain moment, je commençais à trouver que c'était un peu trop abstrait comme rôle, puisque si tu veux, l'argent, en fait, pour déployer toutes les stratégies ou tous les plans marketing que je concevais, il ne se situe pas au niveau du groupe, il se situe au niveau des filiales. Tu vois? Donc moi, j'avais un rôle que je trouvais beaucoup trop abstrait parce que je n'arrivais pas toujours à mettre en pratique ou bien à véritablement déployer ce que je voulais et comme je le voulais dans les différentes filiales. Donc c'est comme ça. Et je viens d'un environnement, je vais quand même faire cette précision. Avant Ecobank, j'étais chez Unilever et comme on le sait, dans les FMCG, le marketing, c'est la fonction centrale. On est vraiment au cœur de tout. On gère quasiment, enfin, pas quasiment tout, mais en tout cas, on est impliqué en fait dans tout le processus du produit, que ce soit sa conception et tout ça jusqu'à sa distribution. On est vraiment une fonction clé, comme on dit, on gère notre PNL, etc. En banque, c'est différent, ou en tout cas, jusqu'à récemment, c'était différent. En banque, le marketing n'était qu'une fonction support. Donc, je passais d'un environnement où j'étais hyper central, où je m'occupais de tout, j'étais débordée tout le temps, et j'adorais ça d'ailleurs, à un environnement où je caricature un peu, mais c'est limite, si on ne te dit pas qu'on a besoin de toi, en fait, c'est comme si tu n'existais pas, presque. Vraiment, je caricature. Et donc, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je trouvais que j'avais pas suffisamment. Enfin, je trouvais que j'étais un petit peu sous-exploitée, si tu veux, au début de ma carrière. Donc, au bout de 1 an et demi, j'ai commencé à faire savoir que j'aimerais bien être rebalancée en région ou en filiale, là où je pourrais avoir la totale maîtrise de mon budget, un certain regard sur le PNL de la banque, etc. Tu vois. Donc en 2000, alors non, pas 2021.
Oriane,
Dex, oui, tu
si
m'entends?
tu me permets, en fait, on a évoqué deux termes. Je pense que pour les plus jeunes qui vont nous écouter, ça va être un peu compliqué. Donc, tu as dit FMCG, donc Fast Moving Consumer Goods, c'est les biens de
Oui,
consommation,
c'est ça,
donc
exactement.
Unilever et compagnie, et PNL, donc Profit and Loss, donc
Oui, merci.
les gains et les pertes
Merci beaucoup.
pour les gens. Excuse-moi, pas de problème pour les anglicistes, on va essayer de préciser pour les plus
D'accord,
jeunes.
pour les prochaines fois, je vais essayer d'être
Ça
moins
marche.
technique.
Ça marche.
Donc voilà, donc 1 an et demi à peu près après. Bon, après, comme je dis, j'avais plus de temps, beaucoup plus de temps que quand j'étais dans mon ancienne entreprise, ce qui n'était pas mal parce que du coup, entre-temps, ça m'a laissé du temps pour me marier, pour faire mon bébé et tout, donc c'est pas plus mal. On va dire qu'après la naissance de mon enfant, j'ai vraiment eu envie de retrouver en fait cette fougue au travail, d'être vraiment les mains, tu vois, en plein dans la gadoue, vraiment faire des choses qui
Bien
impactent
sûr.
dans mon travail. Donc, j'ai demandé à être rebalancée plutôt en région ou en filiale. Et du coup, là, actuellement, j'ai une double casquette. Donc, au niveau de la zone UMOA, je m'occupe de tout ce qui est plateforme digitale à travers les business units. Donc, les business units, comment dire, ce sont les différentes banques. En fait, au sein de la banque, il y a trois mini-banques. Je vais vraiment essayer de parler simplement. Il y a la banque qu'on appelle Corporate Bank, qui est la banque pour les grandes entreprises, pour les organisations étatiques et tout. Il y a la Commercial Bank pour les PME et les institutions. Et puis, il y a la banque pour toi et moi, qu'on appelle la banque des particuliers ou encore Consumer Bank. Et à travers ces trois unités de business, on a des plateformes des plateformes digitales dont j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple EcoBank Mobile pour la banque des particuliers, Omni pour la banque corporate ou bien Omni Light pour la banque commerciale. Et donc, okay. Moi, je m'occupe de toutes les plateformes digitales de la banque au niveau de l'UMOI à travers ces trois business units. Et en Côte d'Ivoire, je suis simplement marketing manager, donc je gère tous les produits de la banque d'un point de vue marketing.
Ok.
Donc voilà ce que je fais exactement aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop compliqué à comprendre.
Non, c'était très clair. Et ça t'a demandé une compétence en particulier, surtout de gérer la partie digitale des banques. Parce que du coup, tu es en amont du processus, maintenant tu aides à la conception du produit ou tu es toujours en aval dans la diffusion auprès des consommateurs, des utilisateurs.
Alors, ta question est super pertinente parce que ça revient en fait au fonctionnement de la banque. Donc, contrairement aux entreprises de produits de grande consommation qu'on évoquait tout à l'heure où le marketing est vraiment central, dans la banque, on a aussi ce qu'on appelle des chefs de produits. Alors que, par exemple, chez Unilever, un chef de produit, c'est justement, il est marketing et il fait tout. Mais dans la banque, le chef de produit est chargé de la conception, de tout, tu vois, les aspects techniques du produit et tout ça.
Vous appelez peut-être product owner à l'intérieur directement d'ici à les digitaux, ou bien vous restez chef de produit, d'accord, ok.
Enfin, product owner ou bien chef de produit, peu importe, ça dépend de quelle langue
d'accord.
on est en train de s'exprimer, mais ça, c'est un peu la même idée en fait. Et d'accord. Donc, moi, mon rôle, ça va être de travailler main dans la main avec ce product owner pour m'assurer, en fait, pour toujours apporter le point de vue du consommateur ou du client final dans le produit. Tu vois, donc même si c'est plus on n'est plus dans une configuration où c'est vraiment moi qui vais dire comment je veux que le produit soit et tout, mais je vais accompagner ce product owner et m'assurer que le parcours client il est impeccable, que le produit est simple, facile d'utilisation, qui répond aux besoins du marché. On va vraiment travailler main dans la main. Et de plus en plus, c'est un travail de longue haleine parce que la banque n'est pas habituée à ça. La banque n'est pas du tout, la banque de façon générale n'est pas du tout habituée au marketing. Ils sont plus habitués à la com. Et ça, c'était vraiment, ça faisait partie des frustrations justement que j'avais. Mais j'observe que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer de plus en plus. Notre fonction prend de l'importance. D'ailleurs, on en a fait une direction. Alors que quand je suis arrivée, c'était pas du tout le même fonctionnement. Mais maintenant, c'est désormais une direction. On reporte directement. Ma line manager, qui est la directrice marketing et com pour toute la zone de l'UMOA, reporte directement au DG de l'UMOA. Okay. Tu vois, donc c'est plus du tout la même configuration que ne serait-ce qu'il y a 18 mois, par exemple. Okay. Donc, on est vraiment en train de prendre de l'ampleur et je pense que la banque comprend en fait désormais le poids et l'importance du marketing dans ce domaine d'activité.
Top, ça marche. Et du coup, ça nous amène sur les mouvements du secteur bancaire, l'impact des fintechs qui elles, en fait, vu qu'elles sont, on dit DNVB, Digital Native Vertical Brand, sont nées sur Internet, sont nées directement sur Internet, ont cette vision utilisateur-là qui est la vision Internet. Hein. Quand tu conçois une application mobile, le plus important, c'est ton parcours utilisateur. Si à un moment donné, il n'est pas fluide, il est bloquant, ça pousse les gens à quitter ta plateforme et à aller chercher ailleurs. Donc, c'était quoi l'impact un peu pour toi, dans ta vision, toi, de ton boulot, de la banque, de l'impact des différentes fintechs qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, je parle de Jamo, Weasel et tout ça. Est-ce que ils sont dans votre vision et comment est-ce que vous réagissez par rapport à leur arrivée?
D'accord. Alors, je vais te donner vraiment ma vision à moi, qui n'engage que moi. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Je dirais de façon très générale que tout ce qui est mobile money et les services financiers digitaux contribuent véritablement à accélérer l'inclusion financière, notamment grâce à leur ubiquité, à la simplicité d'utilisation qui les caractérise, que tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le taux de pénétration mobile est quoi? Largement au-dessus de 100%.
La pénétration bancaire.
On a quasiment deux téléphones tous. Et le téléphone mobile, aujourd'hui, il sert à presque tout faire. Et ce, qu'on ait une connexion Internet ou pas. Donc, moi, je dirais que, tout ce que tu viens d'évoquer, en fait, pour moi, c'est une dynamique qui est extrêmement favorable et qui permet aux banques et à tous les acteurs de la communication et aux fintech de travailler ensemble, en fait, pour mieux servir les populations qui ont de réels besoins de financement et d'accès à l'information financière. Donc, selon moi, bon, bien sûr, il y a de la concurrence, pour moi, elle est saine, mais il y a aussi beaucoup de partenariats en vue. Il y a aussi beaucoup de choses à faire ensemble parce que les banques ont une ressource que les fintechs n'ont pas et les fintechs ont une agilité, une ubiquité, une technologie que les banques n'ont pas. Et donc, pour moi, c'est tout un écosystème que et les banques et les fintechs doivent créer ensemble pour l'essor pour l'inclusion financière des populations, en particulier en Afrique.
Ok. Ok. Ouais, ça me paraît, ça me paraît très cohérent, ouais, d'avoir une complémentarité.
Prenant comme point de vue, mais c'est véritablement ce que je pense. Et étant donné que là, je suis pas dans le cadre justement d'éco-banque ou quoi, je vais pas être en mesure de te donner plus de détails. Mais c'est véritablement ce que je pense et je suis quasiment sûre que ma vision est le découlement de la vision de mon institution, tu vois.
Et est-ce que vous, enfin, je sais pas si c'est partageable hein, d'ailleurs, est-ce que vous avez en tant qu'éco-banque ou toi ta connaissance d'éco-banque qui veut investir dans certaines startups de ce type de, qui veut en tout cas participer à l'accroissement ou à la rapidité à l'émergence de ces fintechs là d'une manière ou d'une autre?
Alors là, je répondrai sans hésiter, absolument. Bien sûr, je ne vais te donner aucun détail supplémentaire,
bien sûr,
mais
bien sûr,
je peux t'assurer que c'est vraiment dans notre vision.
Ok. Okay. Bon, on va revenir à.
Information un peu censurée, mais.
Non, bien sûr, c'est normal. Hein. Bien sûr. Bien sûr, ça se comprend tout à fait.
Mais oui, mais vraiment, ce que j'ai dit, c'est vraiment ça. Okay. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'Afrique est notre stratégie. Donc, si on peut, tu vois, contribuer d'une façon ou d'une autre à inclure davantage les populations, bien sûr, ce sont des segments, des initiatives qu'on back-up, quoi.
Oui, bien sûr, et c'est un relais de croissance de toute façon pour l'ensemble du secteur, donc ça se comprend. Et pour revenir à toi, est-ce que tu as eu des challenges en particulier pour dans la prise de ce poste-là, chaque que tu passais de, comme tu as dit, des FMCG, donc d'un domaine où le marketing était central, pour arriver dans un domaine où le marketing est fait différemment, est-ce que tu as eu des challenges? Et puis en plus, enfin, c'est un avantage comme ça peut être. Une particularité, tu es jeune, tu as un poste de manager au niveau groupe, donc au niveau de plusieurs entités. Est-ce que tu as eu des challenges en particulier pour prendre en main tes postes et est-ce que tu as des clés un peu que tu t'es mise en place pour y arriver?
Alors oui, des challenges. Bon, je pense que tout le monde, comme tout le monde, hein, j'en ai eu pas mal. Donc j'en ai évoqué certains, notamment la frustration de constater qu'en fait malgré la volonté du groupe qui était de commencer à donner une certaine importance au marketing, malgré la volonté de vouloir vulgariser un petit peu, si tu veux, la banque et sortir de ce canevas où on voit le banquier en costume cravate qui attend le client. Enfin, je veux dire, malgré tous les efforts qui ont commencé à être mis en place depuis un moment, dans les faits, c'était vraiment difficile de prendre ce poste et de faire véritablement ce que j'avais envie, de réaliser ma vision pour le marketing sur la catégorie de produits que je gérais chez EcoBank. Okay. Donc oui, j'ai eu des challenges par rapport à ça, j'ai eu des challenges aussi par rapport au fait que j'étais très jeune à l'époque, pour en tout cas le type de poste que j'avais. J'étais très très jeune, j'étais de loin, mais alors de très loin, une des plus jeunes personnes... manager au niveau groupe, tu vois, je pense que la personne qui me suivait devait avoir à peu près 8 ou 9 ans de plus que moi. Donc ça aussi, c'est on en parle peut-être pas suffisamment, mais c'est très compliqué. Hein. Chez Unilever aussi, je suis restée très longtemps la plus jeune, mais pas d'autant. Et puis surtout, j'étais un pur produit Unilever, donc bon, au fur et à mesure, les gens se sont vite habitués et tout, et j'ai pu montrer en fait ce que je valais et pourquoi est-ce que j'en étais là où j'en étais. Mais arriver chez EcoBank à ce type de poste à cet âge, ouais, c'était difficile, mais j'avais vraiment une relation particulière avec ma boss. On s'est très vite On s'est très vite entendu. En fait, elle a très vite vu, je pense, un certain potentiel. Et donc, elle me backupait. Enfin, comment on dit ça en français, du coup?
Ouais, te soutenait et te
Elle me
supportait, ouais.
soutenait énormément. Et donc, je n'ai pas véritablement de clé. Je pense qu'il faut avoir un très fort support système, donc un environnement qui nous soutient. Et vraiment quelque chose auquel se raccrocher mentalement, quoi. Donc certains, ça va être le Seigneur, certains, ça va être leur famille, certains, ça va être leur mari. Et c'est hyper important de tisser d'excellentes relations professionnelles avec son line manager. En fait, c'est important que dans un environnement où les gens ne te connaissent pas forcément, ne savent pas ce que tu vaux, ton line manager doit savoir ce que tu es capable de faire et doit être capable de te défendre, en fait, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est capital. Mais ça sort pas de nulle part. Ça veut dire que lui, il doit avoir vu ton potentiel. Il doit connaître, même si tu viens d'arriver, que t'as pas forcément encore exécuté des choses à proprement parler, il doit voir que tu es prête à bosser, que tu as de la suite dans les idées, que tu es force de proposition, etc. Ça, pour moi, c'est capital. Donc ça, en fait, si tu veux, c'était mon premier challenge quand je suis rentrée. Maintenant, quand j'ai dû passer à mes deux autres casquettes après avoir été donc mariée et avoir eu un enfant, le challenge, c'était plus, bah du coup, je passais de un peu un an et demi de latence où j'avais du temps, où c'était slow, à le tsunami, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est devenu le tsunami dans ma vie professionnelle. J'avais plus de temps et contrairement à quand j'étais chez Unilever où j'adorais ça, ben là j'avais en plus une famille à gérer, tu vois.
Ouais,
Donc
bien
mon
sûr.
gros challenge, je pense qu'il était plus organisationnel. Il n'était pas tant au niveau de ma prise de fonction,
Technique
parce que c'est quelque
professionnelle, ouais.
chose, voilà, c'est quelque chose que j'avais fait. J'ai failli dire toute ma vie, pas toute ma vie, mais toute ma vie en tout cas professionnelle. Donc c'était rien de nouveau, même si c'est un domaine différent. Un client, ça reste un client. Tu vois, que tu vendes du savon, de l'huile, des plateformes technologiques ou un compte bancaire, pour moi, ce qui compte, c'est de répondre à ses besoins, de faire fluidifier son parcours client, tu vois, et de t'assurer que tu le touches sur les bonnes plateformes. Et ça reste. Donc, mon challenge, il était plus comment maintenant gérer ce tsunami professionnel avec tout le travail que j'avais quasiment du jour au lendemain, avec ma nouvelle vie de maman et d'épouse, quoi. Et ça, c'est malheureusement, c'est un struggle qui continue. Enfin, c'est un combat qui continue, bah quasiment, quasiment un an et demi après mes nouvelles fonctions, tu vois. C'est, je suis vraiment dans un
Ouais,
processus
j'imagine.
d'amélioration. J'essaye de grappiller à gauche, à droite tous les tips possibles et imaginables sur l'organisation, sur et tout ça, parce que je vais pas vous mentir, c'est compliqué.
Ouais,
C'est
c'est
vraiment
clair.
compliqué. En tout cas, quand on veut être une maman présente, mais qu'on veut en même temps gravir les échelons professionnels, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à concilier. Mais j'ai des exemples autour de moi de femmes qui ont réussi. Donc, avec l'aide du Seigneur, en tout cas, je pense que je vais y arriver.
J'en ai aucun doute.
Merci.
On va passer, Rouen, sur tout ce qui est marketing. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, c'est une filière qui a toujours eu le vent en poupe, mais avec l'arrivée du marketing digital qui commençait à un peu flancher, les gens qui se posaient un peu des questions. Moi, je me rappelle avoir plus ou moins déconseillé ma sœur de le faire. Bon, après, avec du recul, c'était juste que je me faisais l'écho de ce que j'entendais autour de moi, mais j'avais pas vraiment de raison fondamentale de le faire. Pour des jeunes qui veulent rentrer dans du digital, enfin pardon, dans du marketing aujourd'hui, soit du marketing physique de base avec comme base les 4P, pré-produit, promotion, place, et ou du marketing digital, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles d'aller vers quoi? Enfin, c'est quoi ta vision un peu des jeunes qui voudraient éventuellement se lancer dans des études de marketing aujourd'hui?
La question à 10 millions de dollars. Alors, moi, je pense que on est en train de se diriger vers une société où, pour moi, c'est impossible de passer à côté du marketing, quel que soit le domaine d'activité. Genre, si même, je sais pas moi, Air Liquide cherche des marketing managers, moi, ça veut dire que vraiment, on se dirige dans une entreprise où le marketing, c'est essentiel. Et effectivement, on est très loin aujourd'hui des 4P qu'on apprenait il y a encore, je sais pas, 7, 8 ans. Aujourd'hui, on est passé à 10P.
Ah ouais.
Alors aujourd'hui, on est passé à 10P. Il y a plein, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de marketing, mais désormais, dans les P, on a tout ce qui est process. Tu vois, donc ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à l'interaction avec l'utilisateur, tout ce qui est parcours client fluide et tout. On a physical evidence, c'est la preuve en fait que tu as. Ce que
Ton
tu
produit
préfères,
marche.
est-ce que c'est tangible en fait? Qu'est-ce qui rend ce que tu offres tangible? On a tout ce qui est partenariat dans les P. Et maintenant, justement, avec le marketing digital, on a par exemple permission. Donc, permission, c'est un nouveau P parce que maintenant, le marketing, il est de façon digitale. CAC, tu peux atteindre des milliers d'utilisateurs avec un post en quelques secondes. Mais tu as besoin de leur permission. Donc, comment est-ce que dans ton process, tu t'assures d'avoir la permission de la personne à qui tu veux t'adresser? Tu vois, des fois, quand tu coches, je sais pas, tu télécharges une application ou tu veux t'inscrire à un truc, tu es toujours obligé de cocher un truc qu'on ne lit pas d'ailleurs.
Cookies, ce genre de
lire,
choses.
Bien sûr. Donc ça, c'est dans le P de permission. C'est pour dire que ça a beaucoup évolué, même depuis mes études à moi, qui suis pourtant pas bien vieille. Il y a un gouffre entre ce que j'ai pu apprendre à l'école à l'époque et quand j'ai commencé à exercer mon métier de marketeur que maintenant. Et ce qu'il faut, c'est être en permanente transformation, accepter en fait que si tu n'es pas toujours en train d'apprendre, tu te fais largement dépasser. Là, j'ai un collaborateur qui va se reconnaître dans mes propos, qui est notre digital marketing specialist. Il est digital marketing manager, si tu veux. Mais je suis obligée de m'appuyer sur lui à 100% quand je lance une campagne, quand je veux faire une innovation. Et on travaille vraiment main dans la main parce que il est tout simplement plus actuel que moi, tu vois. Et j'apprends. Alors, c'est mon collaborateur, mais j'apprends énormément de lui. En plus, c'est un monde qui change. Enfin, le digital, c'est un truc qui change tous les jours. Du jour au lendemain, tu as Facebook qui réactualise son algorithme. C'est plus intelligent de faire de cette façon plutôt que de cette façon. Donc, voilà, ça, c'est mon constat. Maintenant, pour revenir à est-ce que je conseillerais quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing? Absolument. Si la personne est prête à se réinventer, si c'est quelqu'un qui aime apprendre, si c'est quelqu'un qui n'est pas figé et qui accepte que tous les jours, en fait, il y aura des nouveautés, des choses pour s'adapter, je pense que c'est un métier qui est passionnant. En tout cas, quand tu as le client au cœur de tes préoccupations, c'est vraiment un métier qui est passionnant. Donc, allez-y à fond. C'est super intéressant. Pour moi, ça ouvre pas mal de perspectives, en fait, au final. C'est un métier qui est assez transverse. Donc, oui, totalement.
Ok. Super,
totalement.
Ça marche.
Donc, la prochaine fois, tu enverras ta seule question à moi.
Carrément.
La décoration en amont.
Et je peux te dire qu'elle va écouter l'épisode et elle n'hésitera surtout pas.
Non, mais vraiment, je vous encourage. Je vous encourage. Et ce qui est génial, en fait, dans le marketing, c'est que tout ne s'apprend pas à l'école. La majorité des choses qui vont vraiment, donc je dis vous servir, je m'adresse à ton public.
Aux auditeurs, bien sûr.
Ouais. La majorité des choses qui va vraiment vous servir, c'est ce que vous allez apprendre dans votre métier, en fait, sur le tas, sur le terrain, en allant avec des clients. Faut pas avoir peur de se frotter, quoi. Je veux dire, si la personne fait du marketing, par exemple, dans une FMCG type Unilever et qu'elle vend du, qu'elle est chargée des savons BF, par exemple, son boulot, en tout cas au début de sa carrière, ça va pas être assis au bureau. Ça va vraiment être au marché,
sur le terrain,
parler avec les femmes, organiser des focus group pour comprendre, en fait, pourquoi, en fait, est-ce que cette femme-là achète BF? Et ça fait partie de mes meilleures expériences en tant que, on va revenir sur ma carrière à Unilever, je suppose, mais vous allez voir que c'est les meilleures expériences en tant que marketeur, vraiment, c'est plus t'es jeune dans ta carrière, plus t'as du temps à passer sur le terrain et auprès des consommateurs, et c'est ça qui va vous développer en fait dans votre boulot.
Ok, top. Bah, merci beaucoup Auriane pour tes insights et ton retour sur ça. On va revenir du coup sur tes études. Est-ce que tu peux revenir vite fait sur tes études et tes premières expériences? Du coup, on va justement parler d'Unilever là maintenant.
D'accord. Ok, donc moi j'ai fait une IUT après mon bac, j'ai fait une IUT Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'UT? Déjà, c'est mon
Ouais.
père. Je pense qu'il m'a super bien conseillé, en fait. Il voulait pas que je fasse une prépa, contrairement à la plupart des parents, en tout cas de mon entourage. Il disait que la
Ouais.
prépa, ouais, c'est bien quand après tu veux absolument rentrer à HEC ou à l'ESSEC, ou en tout cas dans une des top 3. Je sais même plus si elles sont top 3 d'ailleurs. Mais en tout
Elles
cas,
sont toujours top 3, t'inquiète pas. Ça changera pas avant longtemps.
En tout cas, il me disait, si c'est pas pour absolument rentrer dans une des top 3, ça sert à rien de faire une prépa parce que c'est pas diplômant.
Ouais.
Donc, tu vas passer 2 ans qui sont pas diplômants. Et à la fin, si tu veux pas perdre de temps, bah, tu vas juste prendre l'école, enfin, dans laquelle
Que
tu
tu
vas
as en
réussir
fait.
à rentrer. Alors que c'est pas forcément l'école de ton choix. Et surtout, il y a des écoles de commerce qui sont sacrément, enfin, pas très bien classées, quoi,
Bien
pour
sûr.
rester tourtoise. Donc, c'est principalement lui qui m'a conseillé dans un environnement où tous mes cousins et cousines faisaient prépa, voulaient rentrer dans les écoles de commerce et tout. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais comme depuis que j'étais petite, tout le monde me disait, oh, t'as vraiment la fibre commerciale, parce que oui, je vendais tout et n'importe quoi. J'ai même réussi à vendre des citrons du jardin de ma tante. Enfin, j'ai réussi à lui vendre des propres citrons qui poussaient dans son jardin. Donc, j'ai vraiment grandi dans une famille où tout le monde disait, ouais, toi, faut que tu fasses du commerce, faut que tu fasses du marketing. Donc, sans trop savoir ce que c'était, après le bac, je me dis, bon, bah, vu qu'on m'a conseillé une IUT, je vais faire une IUT. Et donc, c'est comme ça que je rentre à l'IUT Tech de Co à Bordeaux. Donc, j'avais passé mon bac à Bordeaux, mon bac de français aussi à Bordeaux, où j'étais partie après les troubles de 2004. Donc, je finis l'IUT. C'était un bon compromis entre la prépa et la fac. Je pense qu'à la fac, j'aurais certainement dû reprendre mon année parce que j'étais plutôt fêtarde. Mais en IUT, en fait, c'est un bon mix des deux parce que on est quand même pas mal encadré. On a des cours en petit comité, enfin, un peu comme en prépa, et mixé avec les cours en amphi. Donc, c'était vraiment le format qui me convenait. Donc, bref, je fais mon IUT Tech de Co qui dure 2 ans. Après quoi, on me délivre un DUT, donc diplôme universitaire et technologique. Et à l'époque, j'avais un ami qui était à Bordeaux avec moi et qui avait une classe d'avance sur moi, qui était à l'INSEEC et qui m'a vendu son école comme étant la meilleure école de tout l'univers. Enfin, j'ai passé un an avec quelqu'un qui me
À
bassinait
entendre
les
ça.
oreilles avec l'INSEEC, avec l'INSEEC et tout. Et sachant que moi, j'étais amoureuse de Bordeaux, je voulais absolument pas quitter Bordeaux. Tout le monde disait, ouais, toi, faut que tu fasses du commerce, faut que tu fasses du marketing. Donc, sans trop savoir ce que c'était, après le bac, je me dis, bon, bah, vu qu'on m'a conseillé une IUT, je vais faire une IUT. Et donc, c'est comme ça que je rentre à l'IUT Tech de Co à Bordeaux. Donc, j'avais passé mon bac à Bordeaux, mon bac de français aussi à Bordeaux, où j'étais partie après les troubles de 2004. Donc, je finis l'IUT. C'était un bon compromis entre la prépa et la fac. Je pense qu'à la fac, j'aurais certainement dû reprendre mon année parce que j'étais plutôt fêtarde. Mais en IUT, en fait, c'est un bon mix des deux parce que on est quand même pas mal encadré. On a des cours en petit comité, enfin, un peu comme en prépa, et mixé avec les cours en amphi. Donc, c'était vraiment le format qui me convenait. Donc, bref, je fais mon IUT Tech de Co qui dure 2 ans. Après quoi, on me délivre un DUT, donc diplôme universitaire et technologique. Et à l'époque, j'avais un ami qui était à Bordeaux avec moi et qui avait une classe d'avance sur moi, qui était à l'INSEEC et qui m'a vendu son école comme étant la meilleure école de tout l'univers. Enfin, j'ai passé un an avec quelqu'un qui me
À
bassinait
entendre
les
ça.
oreilles avec l'INSEEC, avec l'INSEEC et tout. Et sachant que moi, j'étais amoureuse de Bordeaux, je voulais absolument pas quitter Bordeaux. Disons qu'il m'a, il, enfin, il m'a, il a achevé de me convaincre que l'INSEEC c'était trop l'école pour moi. Et au final, après l'IUT, j'ai juste postulé uniquement à l'INSEEC. D'ailleurs, j'ai été vraiment, comme je dis, la grâce de Dieu a vraiment toujours été sur moi parce que c'est la seule école dans laquelle j'ai postulé et ils m'ont prise. Et là, maintenant que je suis plus mature, je me dis, mais en fait, si t'avais pas prise, c'est
C'était un
quoi?
risque, ouais.
Tu vois? Donc voilà. Donc bref, au final, je ne voulais que l'INSEEC. Dieu merci, j'ai pu rentrer à l'INSEEC et c'est comme ça, c'est là que j'ai fait donc mon master. La filière que j'ai choisie s'appelait IBS. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais c'est International Business Strategy. Donc, on faisait de la macroéco, on faisait des commerces internationaux, du marketing. Enfin, voilà. Ça m'a vraiment donné, je pense, quelques rudiments pour commencer la carrière que ensuite j'ai entamée. Donc, voilà pour mon parcours universitaire. Donc, j'ai été diplômée en 2011, promotion 2011. Et voilà comment j'ai fini mes études. Alors, juste après mes études, j'avais aucune envie de rentrer en Côte d'Ivoire parce que j'étais légèrement en avance sur la plupart de mes amis qui étaient encore en train de finir leurs études. Et j'avais pas du tout envie de rentrer à Abidjan et d'être la seule, la seule ici pendant que tout le monde,
tout le monde chillait ici.
Bordeaux, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un stage. Alors, je ne sais pas si tu as des questions sur le parcours universitaire ou pas, parce que là, j'allais enchaîner.
Non, ça va. C'est non, clair pour moi, le clair. Parcours universitaire, c'est clair pour moi. Oui, on peut, okay. On peut aller sur tes stages.
Ok, super. Donc, mon stage de fin d'études, c'était un stage de chef de rayon chez Auchan, que j'ai adoré et détesté à la fois. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire un travail où j'étais exposée aux clients toute la journée. Pour eux, dans les coulisses, tu vois, parce que le marketing, tu travailles vraiment pour eux. Mais je voulais pas faire de la vente ou ce genre de trucs. La grande distribution, c'était pas pour moi.
Ouais. Donc ça, j'ai parce que chef de rayon, c'est vraiment, t'es dans les rayons et tu organises le rayon de sorte à ce que le client voit ce qui est...
Non, en fait, c'est un métier intéressant parce que c'est un peu comme le métier de brand manager, mais sur
c'est formateur.
Le terrain constamment, en fait. C'est hyper formateur parce que quand t'es chef de rayon, t'es pas juste chargé de, par exemple, organiser le rayon aussi, mais t'es responsable de, justement, ton profit and loss de la catégorie du rayon que tu gères, en fait. Donc ça, c'était un aspect que j'aimais beaucoup.
Mais c'est différent du boulot de catégorie manager?
Alors, c'est ça, catégorie, c'est la catégorie. Donc, tu as plusieurs rayons. Moi, par exemple, j'étais sur le rayon sur le rayon art de la table et linge de maison. Ces deux rayons font partie de la catégorie bazar.
Ok, donc le catégorie, il manage plusieurs chefs.
Exactement. Et c'est la même chose quand tu prends dans les FMCG, c'est la même chose. Tu as des brand managers, tu as des catégories managers qui gèrent toute la catégorie. C'est exactement la même chose.
Ok, d'accord.
Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Auchan pendant 6 mois. Comme je disais que j'ai à la fois adoré et détesté. Et puis, j'ai eu mon master et ensuite, il a fallu répondre à la question « Ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, à l'époque, j'étais en couple, mon copain était à Bordeaux, j'avais pas envie de quitter Bordeaux. Donc, je vais faire encore des études. Et je me souviens que je suis allée m'inscrire genre en licence de langue ou un truc, mais vraiment, qui était juste une raison. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire à mes parents sur pourquoi je reste en France, quoi, parce que j'avais aucune raison de rester là-bas. Et ils me disaient « Mais rentre, faut que tu bosses, t'as la chance d'avoir fini tôt. » Parce que j'avais 21 ans, en fait, quand j'ai fini.
Ouais, ok.
Faut que tu rentres et tout, nanana. Bon, bref, je me suis dit, bon, je vais rentrer à Abidjan, je vais juste faire un stage, voir. Parce que même si je n'étais pas prête à rentrer à Abidjan dans l'immédiat, je n'avais pas non plus l'intention de faire carrière à Bordeaux. Donc, je savais qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir que je rentre. Mais je ne savais vraiment pas à quoi allait ressembler le monde professionnel ici. J'avais fait quelques stages, mais bon, tu vois, c'est des stages de vraiment...
Vite fait,
tu vois.
Pour passer le temps, quoi.
Après, bon, j'ai fait un stage chez Orange quand même qui m'a pas mal appris, mais ça restait un stage d'un mois et demi. Bon, c'est pas comme ça que tu vois exactement à quoi
Bien
ça
ressemble
la vraie vie professionnelle. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait du marketing, maintenant je suis diplômée. Quoi de mieux pour apprendre le marketing que les numéros 1, enfin à l'époque c'était numéro 1, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas je voulais bosser chez Unilever en stage. Donc j'ai commencé à faire des pieds et des mains, trouver des contacts, envoyer mes CV et tout. Et on me rappelle, donc ça c'était pendant l'été, on me rappelle pour me dire « Ah, on a vu que vous avez postulé, mais avec votre CV, on ne peut pas vous prendre en stage. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, par contre on a un programme qui s'appelle Management Trainee, vous devriez postuler, c'est parfait pour vous. » Donc moi je fais la traduction de ma tête, je me dis « Mais je comprends pas. Trainee, de l'anglais que je parle. Trainee,
ça veut bien dire c'est anglais, c'est stage, oui. Ouais.
Donc j'étais là en train de me poser plein de questions. Je suis rentrée chez moi le soir et je commence à faire des recherches. Management trainee. Et je me rends compte que la plupart des très grosses entreprises ont ce programme-là de management trainee, en fait, qui consiste à recruter des très jeunes diplômés en dessous d'un certain âge, donc ils appellent des talents, comme tu dis, et qui font rentrer directement au niveau de cadre. Et qui forment en fait en accéléré pendant 2 ans et demi à 3 ans et demi pour devenir des managers. Là où normalement, quand on rentre, comme ils appellent en direct entry, on estime à peu près à 6 à 8 ans le temps que tu passes pour devenir manager.
Ouais.
Donc, ça commence à susciter mon intérêt. Je me dis, ah, pas mal et tout. Donc, je comprends que c'est un programme qui est hyper intense, mais qui te donne énormément de visibilité, d'exposition et tout ça avec des projets bien spécifiques et un système d'évaluation qui est relativement différent des employés, on va dire, qui rentrent par le canal normal. Donc, je me dis, OK, pourquoi pas tenter l'aventure? Et là, je rentre dans un process de recrutement qui est tellement long, Malik. J'ai passé 6 mois. Le process de rentrer chez une élève,
oh my God,
6 mois. Et en fait, j'ai fait tout ça un petit peu sans vraiment de stress, parce que bon, entre-temps, j'étais repartie à Toronto, donc j'ai fait pas mal de trucs à distance. Et puis, j'ai dû revenir en Côte d'Ivoire pour l'entretien final. Et je me souviens trop bien, c'était en décembre 2011. J'ai dû revenir pour l'entretien final. Donc moi, je me prépare, enfin un entretien, pour moi, ça dure pas plus de 2 heures. Et je suis arrivée à l'endroit de l'entretien à 7h30. Je suis repartie à 19h30. En fait, c'était pas un entretien, c'était un concours.
C'était toute une journée de compétition, c'est
ça. Et là, j'apprends. Et en fait, heureusement que j'avais pas toutes ces infos avant, parce que je pense que ça m'aurait stressée. Alors stressé, là, je suis allée vraiment en mode naturel. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que je comprenais l'importance du process dans lequel j'étais. Et j'ai découvert à la fin de cette journée qu'en fait, il y avait des milliers de postulants. Alors, je me souviens plus du chiffre exact. Je veux pas dire de bêtises, mais un truc genre 7000 postulants ou un truc du genre.
Ouais.
Et on a été 5 à être
pris. Non.
En fait, là, je me suis dit, mais Dieu, c'est un truc de dingue, en fait.
C'est énorme, ouais.
Donc, voilà comment je rentre. Je rentre à Unilever. Donc, j'ai eu mes résultats, je crois, en janvier ou quelque chose comme ça, alors que j'avais commencé le process en août, donc après mon, après mon diplôme, après les, pendant l'été en fait, donc fin juillet, début août, j'avais commencé le process et j'ai été acceptée donc en janvier et je devais commencer le 1er février 2012. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma véritable carrière de marketeuse chez Unilever. Et je suis rentrée donc en tant que brand manager. Là, je vais passer rapidement parce que je crois qu'on est en train de...
Mais juste à... Ouais. Avant ça, Oriane, le programme il continue toujours ou pas de training, management training
chez Unilever. Alors bon, je vais quand même mettre un disclaimer parce que j'ai quitté Unilever il y a 4 ans en 2017.
Oui.
Ben, aujourd'hui, exactement, 1er mai 2017. C'est 4 ans que je suis partie. Donc je sais pas, mais par contre, je peux me renseigner et te donner l'info pour le moment où tu vas publier le podcast.
Publier. OK, parfait, ça marche.
Je vais me renseigner.
Mais je ne suis il fallait pas obligatoirement
sûr d'y voir.
D'accord.
Je suis pas sûr.
Il fallait obligatoirement être venir du marketing ou c'était un programme global finance?
Non, c'était un programme management global, il y avait plusieurs profils. Par exemple, de ma promo, je crois que je suis la seule. J'étais la seule marketing. On avait 2 supply chain, 1 ressources humaines et 1 finance, je crois. Okay. Donc, il y a vraiment différents profils. C'est vraiment un programme super intéressant. J'espère qu'il continue toujours. Mais je pense que j'en suis là où je suis vraiment grâce à ce programme. En 2 ans, donc à partir du moment où on est rentré, on a vraiment été stretched. Alors, comment tu traduirais stretched? On a vraiment été...
Tiré dans tous les sens.
Tiré vraiment au maximum de nos capacités. Je peux vous garantir que j'ai pleuré à Unilever. Il y a eu des jours où j'allais m'enfermer dans les toilettes pour pleurer parce que j'avais l'impression de ne pas être capable de ce qu'on me demandait de faire. Mais au final, ça reste mes meilleures années, quoi. Quand je pense à Unilever, c'est...
Quand tu dis pas capable, c'était quoi? Des choses techniques, type des fichiers Excel? C'était quelque chose de vraiment technique, marketing? C'était qui te stressait?
Souviens-toi que je t'ai dit que dans les FMCG, le marketing était la fonction clé.
Ouais, fondage.
Je me souviens particulièrement de cette fois-là où j'ai pleuré avec mon boss, un tortionnaire, que je vais envoyer ce podcast. qui croyait en moi. Et parce qu'il croyait en moi, en fait, il me faisait... Enfin, je pense que ce qui me faisait pleurer, c'était...
Tu voulais pas te décevoir,
Je voulais pas te décevoir, mais c'était une pression énorme. En fait, on te dit, toi, t'es là, t'as 24 ans, tu dois présenter un projet devant le comité de direction.
Ouais.
Un projet, en fait, qui va coûter genre 7 milliards à la
l'institution.
Toi, tu dois présenter comment est-ce que cet investissement de 7 milliards-là va être rentable, en fait. Et puis, t'es là, t'as 24 ans. Ou bien 25 ans. Et genre, ça demandait donc en amont énormément de travail. Fallait maîtriser son profit and loss. Fallait maîtriser tous les intrants dans la chaîne de production. Donc, ce projet spécifique, c'était quand on devait faire la construction et le lancement, en fait, de l'usine qui allait produire et fournir la mayonnaise à toute l'Afrique de l'Ouest.
D'accord.
Ce projet-là, je pense que ça a été le projet le plus traumatisant pour moi, mais c'était génial. Au final, c'est juste après ce projet-là que j'ai eu ma promotion. Donc, en fait, si tu veux, j'ai tout préparé tout, et je n'ai même pas pu le lancer. Il y a eu une opportunité, j'ai eu ma promotion et j'ai passé le bébé à justement un management trainee qui était rentré 2 ans après moi, qui a déployé. Ouais. Donc, chez Unilever, je suis passée par plusieurs étapes. Je suis rentrée en tant que brand manager. Au bout d'un an, j'ai eu une opportunité extraordinaire de partir en STA. Donc, STA, c'est Short Term Assignment en Afrique du Sud pendant à peu près 9 mois. Là-bas,
donc, mission courte.
Une mission courte, oui. C'est une mission courte qui te permet de te donner encore plus de visibilité, d'apprendre énormément de choses, en fait, de sortir un peu de ton day, de ton travail quotidien, en fait, pour apprendre d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis passée, j'ai vu un autre aspect du marketing. Chez Unilever, le marketing, en fait, est divisé en deux. Bon, était. Je mets toujours le disclaimer parce que ce que je dis date d'il y a 4 ans.
Bien sûr.
Donc, on avait la partie brand building que je considère, enfin, qui traduit littéralement comme construction de marque et qui, que moi, je considère comme étant un peu la partie visible, en fait, du marketing. C'est vraiment tout ce que tu vas déployer sur le terrain, dans ta région, sur ta marque ou sur ta catégorie. Et puis, il y a l'autre aspect qu'on appelle brand development, donc développement de marque, qui est pour moi la partie cachée de l'iceberg. Donc, toutes les stratégies, pourquoi est-ce qu'un produit existe, quelle est l'essence de ce produit, la promesse, vraiment l'identité du produit ou de la marque.
Comme on dit, la plateforme de marque. Quoi.
Voilà, c'est fait là-bas. Okay. Et donc, quand je suis partie pendant cette mission courte, c'est vraiment cet aspect du marketing que j'ai fait, que je ne faisais pas quand j'étais à Abidjan, puisque la plupart des pôle de brand development se situe dans les différents sièges. Et le siège, en fait, pour la catégorie personal care, qui est la catégorie à laquelle j'appartenais, était donc à Durban, en Afrique du Sud.
OK.
Donc voilà, donc j'ai fait cette mission courte. Après quoi, je suis revenue, donc cette fois-ci, dans la catégorie food. Je gérais donc ce projet-là dont j'ai parlé sur les mayonnaises pendant un peu plus d'un an. Et puis là, j'ai été promue donc catégorie manager sur la région francophone ouest-africaine. Et donc ça, c'était 3 ans pile poil, un peu moins de 3 ans après être rentrée. Donc ça veut dire que le programme a tenu sa promesse et qu'il a été qu'il a été
très formateur pour toi.
Voilà.
Ok, bah, c'est excellent. Wow, quel parcours, c'est dingue.
En tout cas, j'encourage vraiment si les jeunes, dans les jeunes qui nous écoutent, se posent encore des questions par rapport au fait ou non de postuler à ce genre de programme. Et quelles que soient les entreprises, je sais qu'il y a de très grands noms qui le font. Coca-Cola fait ça, Orange fait ça dans certains pays. Enfin, faut vraiment y aller tête baissée, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est du stress pendant 1 an ou 2, mais c'est de l'apprentissage et après on est sur un tremplin.
Il donne des âges, enfin il y a une limite d'âge, donc en général dans cette limite d'âge, tu n'as pas de vie de famille, tu vis pour ton taf, quoi. Littéralement tu vis pour ton travail. Donc c'est faut en profiter. Ça permet de gagner du temps pour la suite, pour quand ça devient difficile.
C'est clair. Super, merci pour le conseil, Oriane. Du coup, tu quittes Unilever à un moment donné. Je pense que tu prends, il y a deux choses. Tu prends du temps pour toi et après, tu fais un petit CDD, un truc rapide chez Uber en France. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, peut-être pas sur les motifs de pourquoi tu pars, mais pourquoi tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu voulais un peu plus te construire quelque chose et pourquoi ta petite expérience chez Uber et qu'est-ce que ça t'apprend? Je pense que ça a dû te pas mal te donner d'outils pour du coup ta partie digitale aujourd'hui.
c'est vrai. Bon, alors effectivement, je vais pas trop, enfin c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est pas vraiment la
bien sûr
ça, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais effectivement, on pourrait se demander si tout se passait tellement bien, pourquoi j'ai eu ce besoin là de prendre un break et de partir, de prendre ce time off. Mais en fait, ça n'avait rien à voir avec ma vie professionnelle. Donc oui, effectivement, ça se passait bien, j'étais hyper épanouie. Mais j'ai fait une rencontre, on a vraiment résumé ça comme ça. En 2016, j'ai vraiment rencontré Dieu. Je connaissais Dieu, si tu veux. Je venais d'une famille chrétienne. Bon, je savais qu'il y avait un Dieu que je connaissais particulièrement quand je prenais l'avion ou quand j'avais des examens. Voilà. Mais en fait, si tu veux, en 2016, j'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et j'ai commencé à vivre plein de choses super intéressantes. J'ai commencé à à le découvrir, à l'aimer, à le connaître, à l'aimer davantage. Et puis, j'ai eu ce qu'on appelle une vision, donc ma première vision. J'avais jamais eu une vision avant. Et là, j'ai vu une vision. Et en fait, si tu veux, dans cette vision, je prenais clairement du temps off. Je partais en mission. Donc, c'est des missions chrétiennes, des missions d'évangélisation, en fait. Bref, vraiment, pour la faire très courte, j'ai eu cette vision. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié par rapport à ça. Et dans mon cœur, j'ai ressenti la conviction de faire une pause, tout simplement, et de répondre à cet appel que j'étais convaincue que c'était Dieu qui me... que c'est à cet appel que j'étais convaincue que Dieu faisait, voilà. Donc, c'est comme ça que... Bon, ça n'a pas été une décision facile, parce que je me suis posé énormément de questions. Je me disais, mais regarde le poste que tu occupes à ton âge dans une entreprise comme Unilever, regarde ta carrière, et si tu pars et que tu reviens et que tu ne trouves pas de travail. J'avais énormément d'interrogations, de craintes, mais à chacune d'entre elles, il suffisait que je prie et Dieu répondait. Parfois, il répondait même par quelqu'un que je ne connais pas, qui ne connaît pas mon projet, qui vient, je me souviens. Ça, je suis obligée de raconter. Un jour, je suis allée dîner avec une dame qui était la directrice d'une agence digital, justement, avec laquelle on travaillait chez Unilever, qui tenait absolument à ce qu'on aille dîner ensemble. Je me disais, oh, tiens, c'est bizarre et tout.
Bizarre, ouais.
Dîner, et c'était vraiment au moment où je me disais partir ou rester, tu vois. C'était vraiment la question. Genre, dans ma voiture, toute seule, pendant que je conduisais pour aller à ce dîner, j'étais encore en train de crier pour dire au Seigneur, mais rassure-moi, parce que cette décision, en plus, elle va paraître stupide aux yeux de tout le monde. Et bon, je sais que des fois, quand tu te mets à suivre le Seigneur, déjà, de toute façon, tu passes pour quelqu'un de plus très... Voilà. Mais Seigneur, vraiment, rassure-moi, j'arrive à ce dîner. Et l'essence de la conversation tournait autour de cette dame qui, quand elle avait mon âge, donc à l'époque 27, 28 ans par là, comment est-ce qu'elle a plaqué son job chez Clarins pour partir faire le tour du monde. Elle, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Hein. Mais elle m'a parlé... En fait, les mots d'encouragement qu'elle m'a dit ce jour-là, c'est comme si c'était Dieu qui répondait à chacune de mes questions. Elle m'a dit quasiment mot pour mot, tu sais,
ce que tu attendais.
Les cinq ans que tu as passé chez Unilever, personne ne pourra jamais te les enlever, c'est tes acquis. Enfin, elle me disait des trucs comme ça qui étaient vraiment... Elle me disait, tu vas revenir, tu vas trouver du travail, ne t'inquiète même pas pour ça, tu sauras te vendre. On ne se connaît pas, en fait, ce genre.
Ouais.
C'est super. Bref.
Tu l'as gardé comme mentor ou pas?
Non, d'ailleurs, il faut que je prenne de ces nouvelles, ça fait longtemps. C'est pas
ouais,
mais en tout cas, j'ai été convaincue qu'il fallait que je parte. Donc, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma hiérarchie, qui ne comprenaient pas forcément tous les contours de ma décision, mais qui m'ont dit, bon, écoute, fine, si tu en as besoin, c'est important de s'écouter, de prendre du temps pour soi, donc tu seras toujours la bienvenue ici. Mais par contre, ils ne pouvaient pas me garantir ma place. En fait, au début, moi, je voulais juste prendre un congé sabbatique.
Sabbatique,
oui. J'ai réservé pendant 12 mois. Mais ce n'était pas possible, en fait, parce que le droit du travail ivoirien ne prévoit ça que pour certains cas très précis qui ne me concernaient pas.
Grossesse et compagnie.
Oui, c'est quand tu dois faire de la
prison. Maladie,
quand tu es malade, vraiment, voilà. Donc, je rentrais dans aucune des cases et j'avais un poste, enfin, quand même clé, qui pouvait pas juste rester vacant pendant 12 mois, quoi.
Okay.
Donc, c'est comme ça que j'ai fait la grosse décision de partir. Donc, pendant ce break, qui était plus, donc, spirituel, tu le comprends maintenant.
Bien sûr.
J'ai beaucoup voyagé, j'ai pu, ça a beaucoup contribué à faire grandir ma foi. Et puis, bon, à un moment, après tous ces voyages, fallait renflouer les caisses. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée chez Uber pour les trois derniers mois de ce périple que j'ai terminé à Paris. Et vraiment, je sais que LinkedIn le vend plutôt bien, mais en fait, c'était vraiment juste une expérience pour me faire des sous et renflouer un petit peu les caisses avant de rentrer à Abidjan, tu vois. Mais par contre, le fait que ce soit justement dans une start-up, parce qu'à l'époque, c'était vraiment considéré comme une start-up, le fait de faire ça dans une start-up hyper orientée digitale, enfin, c'était forcément un plus sur mon CV. Donc, j'y ai vu aussi une belle opportunité. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal su revendre aussi après, pendant mon entretien chez Ecobank. C'était intéressant, en fait, de voir l'intérieur d'une plateforme énorme comme Uber et de voir comment est-ce qu'ils étaient articulés. Enfin, moi, j'étais dans la partie Customer Relationship, mais spécialisée sur tout ce qui est objet trouvé. Est-ce que tu savais que il y a tout un département sur les objets trouvés? Il y a toute une organisation mise en place rien que pour les objets trouvé, enfin perdu,
c'est
trouvé,
fou.
Tu vois.
C'est
et ça,
dingue.
c'est un truc qui m'avait mais impressionné de ouf, quoi. Il y a... et pendant ce, du coup, pendant cette expérience, j'ai eu à parler au téléphone avec des stars qui avaient pris, enfin, t'as accès
ah ouais.
au compte Uber de plein de gens, tu peux même pas t'imaginer. Ah, bon, ça, c'était trop bien. Donc, bref, donc voilà un peu la petite expérience. Après, est-ce que ça a construit ma carrière? Enfin, non. J'ai fait que 3 mois, c'était sympa, mais. Sincèrement, si je suis 100% transparente avec vous, c'est tout quoi. C'était une expérience.
Okay. Ouais, bah, voilà. Bah, en tout cas, c'est, ça te fait Unilever et Uber sur le CV.
Ouais.
C'est pas mal. Bah, super, Auréane. Bah, on a fait pas mal le tour, on a explosé le temps, mais c'est pas grave, c'était hyper intéressant et je couperai rien du tout. On va arriver sur les parties. Bon, je pense qu'on a, je voulais parler un peu du retail, donc de ce que tu as fait, mais bon, on a parlé assez longuement d'Unilever. Est-ce que toi, comment tu progresses au quotidien? Comment tu évolues?
Ça aussi, tu aimes bien les questions. Comment je progresse au quotidien? Je pense que je donne plus ou moins satisfaction à ma hiérarchie. Après, si je dois m'auto-évaluer, je dirais que j'ai encore pas mal de progrès à faire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment au niveau organisation. J'ai plein de choses dans la tête que j'aimerais faire, que je n'arrive pas à trouver le temps de faire parce que je suis pas organisée. Et donc ça, j'essaye de pas être trop dure avec moi. Je sais que c'est des choses qui vont venir petit à petit avec l'expérience et tout. Mais je dirais que pour l'instant, enfin, si tu me demandes personnellement, je trouve que je patauge un peu. Ça, c'est si je suis vraiment transparente. Et c'est vraiment mon problème organisationnel. Tu vois, il y a beaucoup de projets que je gère en même temps. Je couvre une assez grosse géographie. Et surtout, il y a énormément, on se rend pas compte, mais dans la banque, il y a énormément de produits à gérer. J'ai parlé tout à l'heure des 3 business units. Dans chacun de ces business units, il y a plusieurs product owners. Quand je vais prendre, par exemple, la banque des particuliers, par exemple. Ouais. Dedans, tu vas avoir celui qui est responsable des comptes, tu vas avoir celui qui est responsable des prêts, tout ce qui est produit de prêt. Tu vas avoir, par exemple, les responsables, justement, de plusieurs des plateformes digitales. Tu vas avoir les responsables des cartes. Toutes ces personnes-là sont des services clients du marketing. Donc, toutes ces personnes vont avoir un agenda à conduire, vont avoir des requêtes spécifiques à faire. Moi, en tant que marketing manager, je vais avoir aussi mon propre agenda qui est censé servir les leurs, mais prendre en compte les tendances du marché, les besoins de mes clients. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup de travail au quotidien. C'est beaucoup de travail. C'est aussi des responsabilités de plus en plus grandes puisque la direction marketing prend de l'ampleur et on devient vraiment de plus en plus incontournable. Et ça, c'est un couteau à double tranchant, tu vois. Donc, le problème organisationnel, il est d'abord à mon niveau, mais il est aussi même au niveau de l'institution. En fait, on apprend à gérer cette nouvelle dynamique. Oui, à gérer cette nouvelle dynamique, exactement. Donc, je me retrouve aussi bien à travailler sur des projets hyper stratégiques, mais en même temps, c'est aussi moi qui valide tous les SMS, toutes les communications. Enfin, tu vois, mon scope, il est vraiment mon portefeuille de travail, l'étendue de mon travail est vraiment hyper variée. Donc, c'est à la fois intéressant, mais c'est très demandant, en fait, physiquement et intellectuellement.
OK.
Donc, comment je progresse? Écoute, je m'adapte et j'espère trouver le canevas parfait pour m'organiser mieux, quoi, et pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce qu'il faudrait faire pour le développement encore plus intéressant d'EcoBanque. Voilà.
Ça marche, mais du coup, pas de... pas de yoga, pas de lecture particulière. Kind of.
Ça revient à...
De la prière, je pense.
Ouais, la prière, non, c'est sûr. Et puis, mon mari m'encourage beaucoup. J'ai des amis qui sont là pour moi. On partage des conseils. Enfin, j'ai l'avantage d'être dans un cercle d'amis où on est quasiment toutes devenues épouse et maman en même temps. Donc, on s'entraide comme on peut. Il y en a une qui me donne pas mal de conseils. Mais après, tu vois, il y a la partie conseil et puis il y a la partie mise en application des conseils.
Ouais, qui est pas du tout pareil.
Je suis tricky. Mais bon, on essaye. Enfin, après, j'essaye de. Au début, je me mettais énormément de pression. Ça me faisait pas du tout du bien. Là, j'essaye de relativiser. Je me dis, écoute, de toute façon, c'est la vie. Là, tu en as un. Peut-être que demain, tu en auras deux, trois enfants. Tu ferais mieux de t'adapter. Donc, je m'adapte. Mais j'ai pas, à ce stade, je vais pas avoir de lecture particulière à conseiller parce que moi-même, j'ai du mal à trouver le temps de lire. Donc,
Ouais.
je vais pas trop. Mais donc, voilà, on va dire que je m'adapte. Je m'adapte.
Ok. Est-ce que bah, je te pose deux questions en une. Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que toi-même tu mentors? Et non, non, j'ai posé les deux questions séparément en fait. Non, non, les deux ont
D'accord.
leur importance. Je voulais te demander la seconde question, c'était est-ce que si tu avais une heure à passer avec une personne bah, qui te motive, qui t'inspire, laquelle ça
D'accord.
serait? Mais du coup, tu peux
OK.
répondre aux deux.
Alors oui, j'ai un mentor. Enfin, j'avais un mentor. Là, je ne sais pas si je peux toujours dire que c'est mon mentor, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais dans le cadre justement du Management Trainee Programme chez Ineva, on avait forcément des mentors. Et donc au début, moi, on m'avait imposé un mentor, mais ça ne se passait pas très bien. Donc j'en ai choisi un. Je me suis imposée à lui comme mentee. Donc oui, j'ai un mentor, mais on faisait quand même des rendez-vous relativement réguliers tous les 3-4 mois, tous les trimestres à peu près. Une conversation très ouverte qui allait, donc le principe du mentorat, c'est même au-delà de la vie professionnelle, hein, comme tu
Bien
le
sûr,
sais.
bien sûr.
Donc discussion très ouverte, beaucoup de conseils, me conseiller aussi des lectures, même si j'avoue que j'en lisais 10%. Je sais que toi,
C'est
tu aimes
déjà pas
beaucoup lire,
mal.
donc tu dois lorgner là,
Non, c'est déjà pas mal, 10%.
Donc voilà un peu comment ça se matérialisait. Est-ce que moi je suis mentor? Pas officiellement. J'ai pas de mentoré officiel, mais j'adore donner des conseils, partager mon parcours. Là, quand tu peux le voir, ça fait plus d'une heure que je parle de mon parcours. Et puis je rechigne jamais à. Enfin, il y a pas mal de stagiaires dans les entreprises dans lesquelles je suis, ou même mes collaborateurs directs qui me sollicitent souvent justement pour des conseils de choix de carrière, d'attitude à avoir dans une situation. Donc c'est pas du mentorat officiel. Mais on va dire que j'encadre, j'ai déjà eu encadré, oui, pas mal de jeunes. Pas mal de jeunes. Ah oui, et ta deuxième question, si je pouvais passer une heure avec quelqu'un qui m'inspire. Alors, funny enough, j'ai entendu récemment parler d'une dame qui s'appelle Wangari Mutamatai. Est-ce que tu vois qui c'est? Est-ce que tu as
Si le
déjà
nom me
entendu?
dit quelque chose, mais je ne saurais pas la situer.
D'accord. En fait, c'est une Kenyane. Bon, qui n'est plus là aujourd'hui, qui est décédée, je crois, en 2011 ou 2012. En fait, c'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2004. En fait, pourquoi est-ce qu'elle m'inspire? C'est parce que depuis longtemps déjà, déjà, outre son parcours, enfin, elle a un parcours brillant, tu pourras aller le chercher, mais elle a vraiment un parcours brillant de biologiste, elle a été professeure d'anatomie, enfin, en tant que femme, elle a été militante politique, écologiste. L'aspect, en fait, de sa vie que j'admire, c'est sa détermination, dans le domaine écologique, enfin, sa détermination en tant que militante écologiste, si tu veux, qui
Écologiste, ouais.
date d'une époque où, bah, en Afrique, enfin,
On n'en
parmi
parlait
nous,
pas,
tout ce qui est du fait que, la déforestation, ce genre de choses avaient un impact sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et elle s'est vraiment battue pendant une grande partie de sa vie à faire planter des arbres. Enfin, on la qualifiait d'amoureuse d'arbres, quoi. Et je trouve que c'était un combat qui était. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mener ce genre de combat, de prendre ce genre de position.
Oui,
Donc, pour
c'est
une femme, il y
mainstream.
a 20 ans, enfin, c'était pas du tout quelque chose qui était fashion, quoi, tu vois. Et donc, le nombre de personnes, le nombre de structures qu'elle a dû se mettre à dos pour défendre, en fait, ses idées de militante écologiste, c'est ça, justement, qui lui a valu son prix Nobel de la paix. Et ça, je trouve ça admirable. Donc, voilà, je dirais Wangari Mutamatai. J'aimerais bien échanger sur son parcours, échanger aussi sur le pourquoi de... Bon, peut-être que je peux retrouver ça si je m'assois et que je fais des bonnes recherches, mais pourquoi, en fait, cette détermination, à l'époque, à sauver l'environnement, tu vois? Je trouve ça intéressant. Donc voilà, ce serait elle, je
Top.
pense.
Bah, c'est pour ce genre de découverte que je pose cette question, en fait. J'ai hâte
Ok.
d'aller
Ouais, non,
chercher,
mais il faut que tu la
découvrir.
googles. Elle a un parcours vraiment inspirant.
C'est clair. Dernière question. Est-ce que, du coup, je demande à chaque fois, est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Tu as dit que tu voulais pas partager de livre, donc je t'embêterai pas avec ça. Mais n'importe quoi d'autre, une série, un voyage, un podcast, n'importe quoi.
Oui, alors faut pas rigoler, hein. Mais moi, je
Non?
suis fan de la Corée du Sud. Je sais pas
Ah, ok.
si tu le savais,
Non, bah.
mais
Non,
j'aime
je savais
beaucoup
pas.
la culture coréenne. Il y a plein de trucs de la culture coréenne qui me plaisent. Et du coup, je m'amuse souvent à regarder un blogueur-vlogueur qui s'appelle Paris Yang.
Ok.
Je pourrais t'écrire le nom. Et en fait, il s'amuse à faire des comparatifs sur plusieurs aspects de la vie entre la France et la Corée. Donc, il va prendre
D'accord.
un sujet, ça va être par exemple les appartements en Corée versus les appartements en France, la nourriture en Corée versus la nourriture en France, enfin plein de sujets. Donc, ça peut être des sujets politiques, ça peut être des sujets très relax, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et il fait le comparatif entre les deux. Et j'aime trop regarder ses vlogs parce que du coup, moi, ça me permet de découvrir un pays dans lequel je rêve d'aller très bientôt.
Ouais,
Et je trouve que c'est intéressant en fait, culturel. Ça t'apprend vraiment. La
ok. Les
culture
différences
coréenne.
culturelles.
Il est lui-même coréen. En fait, il est coréen, mais il vit en France. Donc,
Ok.
il a vraiment le recul pour parler de sa culture, mais en même temps, il peut, comment dire ça, temporiser avec tout ce qu'il a pu voir en France. Et, enfin, je trouve qu'il a une analyse vraiment drôle. Donc, c'est moitié comique,
Oui.
moitié culturelle. Et j'aime beaucoup, quoi. J'aime
Ok.
beaucoup ça. Donc,
J'ai
voilà,
regardé.
je t'enverrai le nom
Ouais,
de sa chaîne.
ben, sur
Pourra
WhatsApp,
regarder
je
un
mettrai ça dans
peu.
les dans les et je mettrai dans les notes de l'épisode.
Ah, super, ça marche.
Et normalement, c'est tout bon. Je te demanderai encore une dernière chose. Si tu avais un petit conseil à donner à la petite Oriane qui venait d'avoir son bac à Bordeaux par rapport à tout ton recul, est-ce que tu aurais un petit conseil à lui donner? Encore une dernière question tricky, mais c'est la dernière, c'est vrai.
Franchement, et j'espère que ça va pas paraître prétentieux, mais si je dois vraiment être 100% transparente, j'aurais tout refait pareil. À la différence près que maintenant je connais le Seigneur, donc il y a peut-être des choses que j'aurais pas faites dans le domaine personnel, mais en dehors de ça, je pense que tous mes choix ont été bien inspirés, donc parce que j'ai eu des bons conseils, parce que j'ai eu des personnes avisées autour de moi, mais sincèrement, professionnellement parlant, j'aurais rien changé. J'aurais rien changé. J'aurais. Ah, si, maintenant que je parle. Professionnellement parlant, j'aurais rien changé, mais j'aurais moins gaspillé mon argent à faire la fête et du shopping et j'aurais investi dans autre chose. Ça, je parlais de ça la semaine dernière, mais je me suis rendu compte qu'il y a une année de ma vie. Bah justement, les 6 derniers mois de stage, là, où je gagnais beaucoup d'argent, en tout cas pour une étudiante, je gagnais de l'argent parce que je gagnais mon argent du stage. Et comme c'était un stage longue durée, bah c'était bien payé. Je gagnais, je sais pas, 70% du SMIC ou un truc comme ça. Et j'avais la bourse échelon 5. Donc tous les mois,
Ah
j'avais une belle
ouais.
petite somme sur mon compte. Et il y a quelques jours, j'étais en train de réaliser, mais en fait, c'était trop bête. Si tu avais investi dans un truc, bah aujourd'hui, tu aurais eu un side hustle. Alors, je sais que c'est pas tellement pour le côté, c'est à la mode, tout le monde a un business de côté. Donc, non, mais c'est parce qu'en fait, je trouve ça hyper important aujourd'hui. Donc, ça aurait été vraiment ça mon conseil. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes, en tout cas, qui le peuvent. Je trouve ça hyper important d'avoir un matelas de secours. On sait
Ouais, ça
jamais ce qui peut se
te...
passer demain.
Ah, bien
On
sûr.
a vu avec Covid comment il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, comment il y a des entreprises qui ont dû fermer et tout. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des sources de revenus alternatives en fait que juste son salaire. Et donc voilà, c'est pas tellement professionnel, mais c'est plus financier comme conseil. Et voilà, ce que je me serais dit à la Oriane, nouvelle diplômée, c'est épargne, épargne, investi.
C'est un super conseil.
Voilà.
En vrai, moi, je le donne aussi à pas mal de jeunes quand je l'ai, parce que forcément, hein, quand on arrive, on n'est pas loin des 30 ans, on se dit, mais
Ah
waouh,
ouais, ça
qu'est-ce
doit
qu'on a dépensé dans des conneries, et
être
que, mais
terrible.
oui, enfin, aujourd'hui, tu t'en fous, alors que tu aurais pu faire un apport financier pour une maison,
C'est clair, c'est clair.
être à l'aise.
Non, c'est
Super,
clair.
super, super. Merci beaucoup, Ryan. C'était hyper intéressant.
Bah,
Bah, moi,
merci
je
à
connaissais
toi
un
pour
peu ton parcours un peu en
l'opportunité.
diagonale. Non, c'est toi. Et donc, voilà, je pense que ça sera un super épisode qui va apprendre beaucoup de choses aux gens. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à la fois sur le marketing, sur ton parcours et même sur les boîtes EcoBank et Unilever et d'autres. Donc, voilà. Infini merci.
Merci, j'espère avoir répondu à tes attentes. Et
Carrément.
puis, félicitations encore pour ce projet. Moi, c'est un super projet pour moi. De toute façon, un projet qui vise à aider les plus jeunes à prendre leurs décisions, les choix de carrière, c'est tellement important que je soutiendrai toujours ces initiatives, comme j'ai fait il y a 5 ans, comme je fais maintenant encore. Donc, c'est un plaisir partagé.
Merci beaucoup, Ryan.
Porte-toi bien.
Je